Vous écoutez
RMC.
Vendredi 19 juin,
l'info sur RMC.
8h02, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Frappé parce que policier, le témoignage glaçant ce matin sur RMC du fonctionnaire roué de coups à Lyon en début de semaine. Il est traumatisé. Rouler moins vite pour respirer mieux, passer de 130 à 110 km/h sur les autoroutes. C'est l'une des propositions phares de la Convention citoyenne sur le climat. La copie finale sera rendue dimanche à Emmanuel Macron. Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement par visioconférence aujourd'hui. Le plan de relance de 750 milliards d'euros a été proposé par la Commission. Bienvenue à tous sur RMC. Le témoignage d'un homme traumatisé ce matin sur RMC, celui de ce policier passé à tabac dans la nuit de dimanche à lundi à Lyon. Il a quitté l'hôpital hier soir mais n'est pas rentré chez lui par peur de représailles. Alexandre, 34 ans, a vu sa vie défiler alors qu'il se trouvait avec sa compagne quand il a été violemment agressé. Il a raconté à Gwenaëlle Vendrestin et Valentine Roux ses longues minutes d'horreur.
On voit arriver une douzaine de personnes qui sont en train de nous chercher. Ah, ils sont où ces enfoirés? Ah, c'est toi l'enculé de flic qui t'en est pris à mon pote. Et s'en est suivi un lâchage complet où ma tête a servi de ballon de foot. J'ai dû subir une quarantaine de coups de pied derrière la nuque et la tête. Et à chaque coup, je sentais soit mes vertèbres craquer, soit ce début de flottement où vous commencez à être chaos, en fait, où vous commencez à vous sentir partir. À chaque coup, moi, je commençais à me dire, est-ce que à la prochaine, je vais finir tétraplégique ou est-ce que je vais juste mourir? Je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Je peux plus tenir, j'ai plus la capacité physique. Ce qui me sauve, les collègues qui arrivent aussi vite et ce voisin qui leur dit que les policiers arrivent. Là, dès que je me retrouve seul le soir, je revis la scène où mon lynchage. La nuit, je compte plus les moutons, je compte les coups qu'on me porte à la tête.
Et je précise que 3 personnes, dont 2 adolescents, ont été mises en examen pour violence volontaire. 2 sont derrière les barreaux. Ils ont ingurgité des milliers de pages de rapports, passé des semaines, des mois, rencontré des dizaines d'experts. Les 150 participants de la Convention citoyenne pour le climat vont rendre leur copie verte dimanche à Emmanuel Macron. D'ici là, ils vont se réunir une dernière fois pour voter pour les mesures qu'ils gardent. Romain Cluzel.
Tirés au sort il y a 9 mois, ces 150 citoyens se sont formés et ont auditionné des dizaines de personnes pour publier des mesures très précises. Par exemple, la Convention propose de rénover obligatoirement les logements énergivores avec des objectifs, rénovation des passoires thermiques d'ici 2030 pour passer en catégorie A ou B. Et si ce n'est pas le cas, des sanctions sont proposées. Interdiction de louer ces passoires thermiques dès 2028. Autre proposition concernant les transports, réduire la TVA sur les billets de train à 5,5%, mais aussi limiter la vitesse sur l'autoroute à 110 km/h. Les citoyens disent être conscient de l'impopularité d'une telle mesure, mais défendre sa vertu écologique. Une fois votées ce week-end, ces mesures seront remises à l'exécutif qui a désormais la main. Emmanuel Macron s'est engagé à les retranscrire sans filtre, soit au Parlement, soit par décret, soit dans un référendum.
Et William Ocan est l'un des citoyens de cette convention. Ce Nantais de 33 ans, architecte, a travaillé sur les thématiques du logement. Il est impatient, évidemment, de rendre concrètes les mesures décidées.
Il y a une certaine impatience de pouvoir enfin transmettre ces mesures. Dans le groupe Se Loger, on avait à cœur la rénovation énergétique globale de l'ensemble des bâtiments en France, de réguler le chauffage et la climatisation dans les lieux publics, et un troisième élément aussi de lutte contre l'artificialisation des sols, de faire attention à où on construit maintenant, et de construire en priorité sur des zones déjà artificialisées. Donc là, on prend des exemples de anciennes friches industrielles, et surtout, on veut maintenant avoir cette phase-là d'ouverture, de discussion avec tous les Français, quoi.
À retenir également dans l'actualité, le gouvernement qui va reporter d'un an la suppression de l'avantage fiscal sur le gazole non routier utilisé par les engins de chantier. RMC 8h06, la Normandie sous surveillance. Ces derniers jours, le nombre de cas de Covid a dépassé le seuil de vigilance avec la multiplication de foyers de contamination. Aurélia Manoli, pour l'instant, la région reste verte.
Oui, car seul l'un des 4 critères de la crise sanitaire repasse en orange en Normandie. Il s'agit du fameux R0, le nombre de personnes qu'un qu'un patient va contaminer. Car depuis début juin, 5 clusters sont apparus au sud de Rouen, 4 dans des foyers familiaux, conséquence de réunions familiales au cours desquelles les gestes barrières n'ont pas été respectés, selon le directeur de l'Agence régionale de santé. Au total, une trentaine de cas repérés. Toutes ces personnes rapidement identifiées terminent actuellement leur quatorzaine à domicile. Le cinquième cluster se trouve dans un EHPAD. 13 personnes contaminées, les visites y ont été suspendues. Mais la situation n'est pas préoccupante, selon l'ARS, qui rappelle que les gestes barrières doivent continuer à s'appliquer, même chez soi, en famille.
Merci Aurélia. Il y a urgence de trouver un accord pour relancer l'économie européenne. Les chefs d'État membres de l'Union vont discuter ce matin par visioconférence. Le plan de relance proposé fin mai par la Commission se chiffre à 750 milliards d'euros. Paul Barcelone, le plan est soutenu principalement par la France et l'Allemagne, mais il reste à convaincre plusieurs États encore récalcitrants.
C'est une vraie négociation qui s'ouvre. Concrètement, tous les pays de l'Union européenne sont d'accord pour un plan significatif financé par un emprunt commun. Mais ce qui coince, c'est la répartition des 750 milliards d'euros. L'idée serait de se baser sur trois critères. La population de chaque État, le PIB par habitant et enfin le taux de chômage moyen sur les 5 dernières années. Mais certains pays estiment que ces critères relèvent trop du passé, des critères qui pourraient favoriser des pays comme la Bulgarie, la Slovaquie, qui ne sont pas les plus touchés par la crise du coronavirus. Alors, pour parvenir à un compromis, il faudra un autre sommet avec des discussions physiques, estime un proche d'Emmanuel Macron qui veut aller vite. Compte tenu de l'urgence de la crise, le chef de l'État espère signer cet accord au plus tard mi-juillet.
Et si le visage du célèbre Uncle Ben disparaissait des paquets de riz jugés racistes, le packaging pourrait donc changer en plein mouvement sur les violences policières, les discriminations raciales aux États-Unis. Le géant agroalimentaire Mars estime que le temps est venu de faire évoluer l'identité visuelle d'Uncle Ben. Margot Bourdin.
Accusé de véhiculer des stéréotypes racistes, le célèbre logo de la marque Uncle Ben's, qui représente un homme noir, âgé et souriant, va changer. Une bonne nouvelle pour Louis-Georges Thin, le président du Conseil représentatif des associations noires de France.
Les marques sont évidemment un élément de la culture populaire. On sait l'imaginaire de Balagna, par exemple, en France. C'est beaucoup par les marques ou par la publicité que les représentations se diffusent.
Une autre marque américaine qui commercialise de la farine et du sirop d'érable, Aunt Jemima, a également prévu de changer de nom d'ici la fin de l'année et de se débarrasser de son visuel, une femme noire au sourire éclatant.
L'hystérisation du racisme est la pire des choses pour le combat contre le racisme.
Pour Franck Tapiro, conseiller en communication, ces marques agissent plus par opportunisme.
Les marques réagissent sur l'émotion. Et sur le coup de l'émotion, elles se disent « il faut changer quelque chose. Oh, il y a une représentation noire qu'on a depuis un siècle ». On va nous traiter de racistes, on l'enlève. Arrêtons de faire des faux combats.
De nombreuses marques ont également prévu de verser des dons pour améliorer l'intégration des minorités et promis de faciliter leur embauche.
Un vrai concert dimanche soir à Bercy, 2000 personnes dans une salle qui peut en accueillir normalement jusqu'à 20 000. Règles sanitaires obligent, donc des règles très strictes qui vont s'appliquer dans les bars dimanche pour la fête de la musique. Reportage à Toulouse, signé Jean-Wilfried Forquès.
Dans ce café-restaurant, pas évident de trouver une place pour les bandas, la fanfare locale qui va animer la soirée.
Les bandas, on va les mettre à la place de la table juste à côté de toi. On va essayer de les écarter un maximum et que les gens vraiment sur la salle, comme d'habitude, soient écartés par groupe de 10 personnes maximum.
Pour Julien Roumaniac, le gérant, la distance sociale risque de gâcher la fête.
Quand vous écoutez ces musiques-là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont envie ? Ils ont envie de se sauter dessus, de chanter ensemble, de passer un moment convivial. Et là, ce moment, on nous le supprime pour le moment.
Luc et plusieurs amis musiciens se relaieront sur scène dans une maison de campagne sans public. Le concert sera retransmis sur Facebook et diffusé dans 4 cafés toulousains. Luc en arrive même à regretter les concerts improvisés pendant le confinement.
Même sur le balcon, bah, y avait les gens, ils étaient là, ils étaient en face, ils applaudissaient, ils attendaient que ça. Et là, bah, du coup, pendant la fête de musique, bah, on l'aura pas. On n'aura pas ces gens et ce retour des gens. Malgré tout, on va quand même jouer. On joue pour la fête de la musique. On est musicien, donc on joue pour la fête de la musique.
À Toulouse, aucun rassemblement musical spontané ne sera autorisé.
Voilà, donc fête de la musique, c'est dimanche.